Madame Bourgeois.
Merci, Monsieur Carole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va essayer avec le docteur Marsili de faire une présentation à deux voix en tentant de montrer l'évolution de l'architecture dans les établissements publics de santé mentale en France et en Italie. Et on prendra donc, bien évidemment, la comparaison entre le PSM Lille Métropole à Armentières et puis l'hôpital de Trieste. Donc en fait, pour reprendre très rapidement une définition, donc l'architecture, c'est l'art de concevoir et construire un bâtiment dans le respect des contraintes fonctionnelles, éthiques, esthétiques, techniques et réglementaires déterminées. Donc on voit dans cette définition qu'il y a la notion donc de respect. Donc de respect des contraintes. Contraintes, on l'a vu tout à l'heure aussi à travers l'évolution des pratiques, mais aussi à travers l'évolution de la société. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc Rodin disait, l'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. Là aussi, par rapport à notre discipline, nous avons imaginé que, effectivement, quand un architecte se penche sur nos intentions en tant que professionnel donc des services de soins, eh bien, il a à prendre en compte, effectivement, nos contraintes, mais aussi à travers l'évolution de notre discipline par rapport à la société, eh bien, à essayer de faire comprendre comment nous voulons faire évoluer la représentation que l'on peut avoir de notre discipline. Suivante, voilà. Donc la diversité du patrimoine architectural, on l'a vu donc dans la présentation de Monsieur Guillemin, donc dédié aux soins dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, reste aujourd'hui le témoin de l'évolution de nos pratiques. Et donc, on peut dire aussi que l'architecture, aujourd'hui, elle sert deux causes. Tout d'abord, la qualité et la sécurité des soins, pour pouvoir répondre du mieux possible à la prise en charge des patients qui nous sont confiés, quels que soient les lieux, on le verra par la suite, mais aussi la qualité de vie au travail pour les professionnels, pour faire en sorte que cette alliance entre les patients et les professionnels puisse se faire de la meilleure manière possible. Donc, ce que l'on peut aussi observer, c'est que l'architecture reste au service de la gestion de situations humaines complexes que nous sommes amenés en tant que soignants à accompagner chaque heure, chaque jour. Et là aussi, donc, égard à nos missions de service public, et là aussi, en fait, on sait combien l'organisation architecturale de nos structures peut influer aussi sur le comportement des patients. Et aujourd'hui, donc, les réflexions et l'évolution que l'on peut constater, eh bien, montrent bien aussi toute l'évolution de notre discipline. Donc on va passer, je dirais, à quelques images qui montrent qu'à l'EPSM Lille Métropole, eh bien, cette complexité est pensée depuis pratiquement 400 ans, puisque c'est en 1615 que cet établissement est fondé par la congrégation des bons fils et bons fieux, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, une volonté d'accueillir les déshérités de la société. Donc à l'époque, c'est sa mission. Donc, tout à l'heure, vous avez vu une image donc de l'établissement dans la construction après-guerre. Voilà quelle était l'image de l'entrée principale dans les années 50, donc avec cette grille, bien évidemment, qui montre bien la différence entre cet établissement qui vivait en autarcie et puis la ville. Voilà, aujourd'hui, c'est l'image donc de notre entrée, avec effectivement donc une pénétration, si je puis dire, de la ville dans l'établissement. Et par exemple, le week-end aujourd'hui, on peut constater que les promeneurs du dimanche, eh bien, se baladent dans les différentes allées de l'hôpital, et où il y a une rencontre entre les patients qui sont accueillis et puis les personnes de la ville. Et on peut passer à la diapo suivante. Tout ça aussi parce que voilà, il y a un parc qui est entretenu par nos jardiniers et qui aujourd'hui est très apprécié des promeneurs, mais aussi des patients et de leurs familles. La réflexion sur les espaces architecturaux est aussi le reflet de l'expression des hommes à intenter, témoin d'une intention sur la philosophie et les organisations de soins. On peux passer la diapo suivante. Voilà. Alors, on le voit depuis le début, je dirais, de notre réflexion. On sait que pour pouvoir construire l'avenir, il faut savoir relire son histoire et lui donner un sens. Aujourd'hui, pratiquement tous les établissements publics de santé mentale sont amenés à se reconvertir eu égard donc à la politique de secteur et puis au fait de pouvoir proposer des soins qui soient plus proches de la population et intégrés dans la ville. On le reverra tout à l'heure par rapport à cette intégration qu'il peut y avoir donc en lien avec des lieux de soins, mais aussi des logements, par exemple. Donc là encore, on sait qu'aujourd'hui, la luminosité, les coloris, les matériaux, le mobilier sont autant d'éléments qui vont participer à la sérénité des patients et des professionnels et que nous avons à conjuguer finalement à la fois le respect de l'intimité du patient donc dans des chambres individuelles qui sont proposées, mais aussi les espaces de soins collectifs qui sont importants par rapport à la prise en charge et à la reconstruction des personnes qui nous sont confiées. Madame Thévenot en parlera tout à l'heure. En fait, les espaces de déambulation, les patios intérieurs sont aussi les témoins d'une liberté d'aller et venir où, contrairement à ce qu'on pouvait vivre, dans les siècles, voire les années précédentes, où la confrontation à l'autre, elle n'est pas forcément obligatoire, mais elle est tout simplement possible. Et donc, là aussi, l'agencement de cette structure témoigne de l'évolution des rapports entre les soignants, les patients, mais aussi leurs familles. L'architecture reflète donc l'évolution des pratiques soignantes, et donc on va passer à la diapo suivante avec... Donc aujourd'hui, par exemple, donc vous voyez, ça c'est un hôpital de jour, donc petite enfance, qui a été construit récemment et qui s'intègre complètement dans la ville. Alors là aussi, on voit les espaces de déambulation de luminosité et derrière, on voit donc les immeubles sur Tourcoing où finalement, pour nous, il y a beaucoup d'espaces, je dirais, qui sont consacrés aux enfants et où ils peuvent déambuler et où derrière, on voit ces immeubles où les personnes sont plus concentrées. On va passer à la diapo suivante. Donc notre établissement, pour notre établissement, c'est aussi un style architectural qui est relativement imposant. Aujourd'hui, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, aujourd'hui, en fait, le PSM Lille Métropole est identifié comme étant le poumon vert de la ville. Et donc, vous voyez là aussi, je dirais, comment cet espace architectural imposant est confondu finalement dans cette verdure. Là, on a aussi, j'évoquais tout à l'heure la reconversion donc de nos sites. On a aussi l'alliance. Donc là, c'est notre structure, notre maison d'accueil spécialisée, la résidence Berthe Morisot. On a aussi, je dirais, l'alliance donc du sanitaire et du médico-social au sein même donc de ces établissements. Mais on a aussi, diapo suivante. Voilà, l'Institut de formation en soins infirmiers. Alors là aussi, si vous regardez donc cette image, en fait, ce pavillon, dans les années 80, c'était le pavillon Parchap. Donc, ce Guillemin, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc qui accueillait... Donc, dans la première unité, c'était une unité d'accueil où il y avait 180 malades. Et juste à côté, c'était le pavillon des travailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, un lieu pour d'autres travailleurs, donc les étudiants en soins infirmiers. Et on a réaménagé complètement l'espace intérieur donc de cette unité et de ces pavillons pour pouvoir... Je vais aller plus vite.
Vous êtes à 12 minutes.
Hein. Bon, d'accord. Donc, il me reste... je vais aller vite. Donc aujourd'hui, nous devons aussi relever le défi de la proximité des soins dans des lieux où les personnes osent franchir la porte pour accéder aux soins qu'ils sont en droit d'attendre de notre système hospitalier. Donc en fait, là, on va voir les UTP de Tourcoing. Donc là, on est plus dans un milieu urbain, mais les unités tourquenoises de psychiatrie situées dans un établissement de soins généraux, mais sous la responsabilité de l'EPSM Lille Métropole, et complètement intégrées dans la ville. On a, on passe à la diapo suivante, ça je l'ai déjà dit. Voilà, on a aussi des structures modernes qui sont complètement intégrées dans la ville, puisque là, vous avez un centre de santé mentale donc au rez-de-chaussée, et on a travaillé avec des bailleurs sociaux, ce qui fait que dans les deux étages que vous pouvez visualiser, eh bien, ce sont des logements qui sont dédiés aux personnes de la ville. Et quand on passe devant cette structure, eh bien, on ne sait pas identifier où est le centre de santé mentale et finalement où est l'entrée pour les personnes qui logent juste au-dessus de notre structure de soins. Diapo suivante. Là, vous avez la résidence André Breton, donc qui est une structure qui accueille donc également dans son rez-de-chaussée donc 6 personnes. Donc en première intention, c'est 6 personnes polyhandicapées qui étaient complètement intégrées dans la ville. Aujourd'hui, on a 6 personnes qui sont plus dans une structure appartement thérapeutique. Et puis là aussi, au premier étage, eh bien, ce sont des personnes qui vont intégrer des logements sociaux. Donc le défi des prochaines générations et la réflexion sur l'architecture doit nous permettre de dépasser les clichés, doit nous permettre de dépasser les amalgames pour nourrir notre réflexion et notre éthique en tant que soignants sur cette alliance qui a été citée à plusieurs reprises, donc en tant qu'homme, en tant que citoyen, et cette alliance entre le soin et les structures. Donc je terminerai mon propos en disant que depuis, en citant en fait Victor Hugo qui dit que depuis l'origine des choses, l'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, la force, elle est surtout dans le travail d'équipe que nous pouvons mener avec les architectes pour que les architectes puissent en prendre en compte et prendre, je dirais donc, au quotidien dans leur dessin nos préoccupations, mais aussi puisse prendre en compte eh bien, toute l'éthique qui doit être la nôtre par rapport à l'évolution de notre discipline. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Mme Bourgeois. Donc, docteur, vous avez donc 10 minutes afin de nous permettre un temps d'échange de 5 minutes pour les questions-réponses. Alors, je ne sais pas si c'est presque impossible.
On va essayer, je ne suis pas sûr.
Mais enfin, merci par avance.
Alors, bon, bonjour à toutes et à tous. Je viens après cette présentation en montrant en effet ce qui s'est passé à Trieste. Hein. Trieste est une ville, vous la voyez, une très belle ville, qui était autrichienne pour 5 siècles. Donc, je commence avec en m'accrochant à ce que j'ai entendu ce matin, l'asile de Trieste était l'asile modèle asile-village, hein. Modèle autrichien. Typiquement avancé et qui a été conçu à fin du 19e siècle, début du 20e. Hein. Vous voyez, l'asile de Trieste a été projeté en même temps que l'asile de Vienne. Celui de Vienne a été ouvert en 1903, le fameux Steinhof, projeté par Hoffmann, et celui de Trieste a été ouvert en 1908. Donc, il y a un parallélisme et ils sont très similaires. Plus petit celui de Trieste, plus grand celui de Vienne. Mais il s'agissait d'un hôpital d'avant-garde. Donc, pour comprendre les évolutions successives, il faut partir de là parce qu'il s'agissait d'un hôpital qui avait en effet au cœur. Tu peux avancer une voilà. C'était. Il avait ok. La suivante. Voilà. Il avait au cœur hein, la modernité. L'être un modèle exemplaire. Donc, la ville de Trieste était une ville très riche à l'époque, hein, pas aujourd'hui. Et donc, il utilisait bien les moyens qu'il avait pour être à jour. Il a été la première ville à avoir les béton armés au monde. Hein. Et là, toute la structure est en béton armé, en 1908. Hein, c'est rare. Ils ont exploité les mêmes méthodologies qu'ils ont fait pour les ports. Donc, c'était vraiment à l'avant-garde et c'était basé sur des principes clairs. C'était la vie tranquille, donc les villages devaient être l'outil thérapeutique, les villages avec fait par des petits pavillons, selon le comportement. Il avait les agités, bon, il avait les tranquilles, les demi-tranquilles, les travailleurs. Donc, en soi, l'hôpital était la réponse aux troubles, hein, et le travail. Il y avait la plus grande, je crois, quand on était attaché à l'Italie, c'était le seul asile, le seul hôpital psychiatrique où il y avait une grande quantité de malades, travailleurs. Hein. Et en plus, c'était conçu, vous voyez, c'est les images, là c'est la rue d'ensemble, ça c'est le théâtre, le deuxième, et le troisième, c'est l'entrée, hein, voilà. Était conçu pour 600 personnes. Mais en 1971, quand il y avait Basile, il y en avait 1200. Hein. Ça, c'est. Il faut aussi. Tu peux avancer. Voilà. C'est un lieu très beau. voyez, à gauche, il y a un autre très beau lieu qui est une ville médicienne qui est en Toscane. Mais c'est aussi l'hôpital psychiatrique judiciaire. Donc là, c'est les chambres à l'intérieur. Hein. Et là, c'est le Steinhof de Vienne que j'ai visité. Et là, moi-même, j'ai vu des pavillons pour les enfants. Donc, vous voyez que là, souvent, la beauté, ce n'est pas allié à une bonne pratique. Hein. La suivante. Voilà. Et j'ai dit que les espaces et les fonctions doivent être toujours accompagnés par des bonnes pratiques. J'ai trouvé une ancienne image, peut-être c'est comme une chartreuse, mais c'était dédié à un hôpital psychiatrique, voilà. Et j'ai trouvé par hasard la même image, mais dans un endroit complètement moderne. Donc ça, le risque, c'est ça. Hein, il faut jamais oublier ça. La suivante, voilà. Ce qui s'est passé, en effet, dans cet hôpital psychiatrique moderne, modèle, je dirais, c'est qu'en effet, en 71, on a eu la nécessité de faire une rupture du paradigme, hein, une rupture des paradigmes qui s'est symbolisée par cette image de Franco Basaglia, qui était le directeur de l'hôpital psychiatrique, qui essaie de casser la grille et qui empêche la sortie du cheval bleu, qui était le produit de l'atelier artistique, de l'atelier fait par les malades et des artistes, donc qui devait sortir de l'hôpital, mais ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait des grilles. Bon, cette image symbolise en effet la nécessité de casser quelque chose, hein, pour en construire quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Et donc ces paradigmes, en effet, on peut quand même, j'ai mis cinq mots-clés, cinq passages qui résument ce qui s'est passé à Trieste dans les années 70. En effet, c'est le passage qui s'est passé partout dans le monde. Donc c'est le passage d'une vision ferme, fermée, à une vision ouverte, donc le passage de la fermeture à l'ouverture. Et donc, à un niveau architectural, c'est le passage de lieux, comme j'ai entendu très bien, les hôpitaux psychiatriques étaient dans la banlieue, dans la campagne, loin. Hein. Bon, le passage de l'éloignement des espaces à la proximité, donc à être à côté de la ville, des citoyens, des personnes qui vivent et qui ont les troubles. Donc, évidemment, ça propose le passage de l'exclusion à une vision intégrée, donc de quelque chose qui met loin les barrières, les murs, hein, à quelque chose qui n'a pas de murs, qui n'a pas de grilles, et c'est l'intégration à la ville. En même temps, c'est un passage symbolique du contrôle. Hein, on avait pas mal d'hôpitaux où le contrôle était le cœur, hein, du système, à une participation responsable, donc où les usagers, les malades font partie du système. Et enfin, ça produit à niveau de architectural le passage de la centralisation à la dispersion. Donc, au lieu d'avoir l'unité des lieux et des temps, hein, c'est l'hôpital typiquement, à une multiplicité, à une panoplie de lieux et des espaces. Voilà, tu peux aller à la suivante. Voilà. Donc, très simplement, je crois que quand Basaglia a abordé la question, il y a un livre que j'ai cherché quand je suis descendu en Italie, je n'ai pas trouvé, qui était écrit, c'était en début des années 70, et sur l'architecture, c'est la participation de Basaglia à un premier congrès d'architectes. Hein, donc même lui s'est posé cette question. Bon, il avait deux grands principes que quand même j'ai écouté de sa propre voix. Donc d'un côté, c'était contraster la misère des lieux, donc les espaces pauvres pour les pauvres, hein. Donc, c'est vraiment le contraste de donner les choses belles, riches, vivibles, hein, vivables pour les personnes qui sont plus défavorisées. Et l'autre chose, c'était la reconversion, la réutilisation des espaces asilaires, des espaces qu'on avait déjà exploités si longtemps. Voilà. Ces deux principes, je dirais que, en effet, sont mis en place. Exemple, ça, c'est le quartier défavorisé où j'ai travaillé pour 10 ans. C'est vraiment, vous voyez, j'ai dit horrible, hein, parce qu'en effet, ça, c'est un peu la réalité à niveau des espaces, mais aussi à niveau général, culturel. Donc, sur ces liens-là, on a essayé de mettre en place un centre de santé mentale qui avait comme but la qualité des espaces. Voilà, c'est la suivante, c'est le centre de Domio, voilà. Bon, espace de qualité dédié à la santé mentale. Donc, dans un quartier défavorisé, il ne faut pas mettre des carreaux blancs et des choses moches, mais des choses belles, parce que ça entraîne quand même un changement. Tu peux montrer la suivante. Hein. Mais sur les espaces hospitaliers et les espaces en général, l'autre chose, l'autre principe sur lequel on s'est adapté, là, c'est la même fonction dans des différents espaces et le même espace avec des différentes fonctions. Donc, ça concernait d'un côté l'hôpital. Qu'est-ce que faire de ce patrimoine assez important qu'était l'hôpital psychiatrique? Parce qu'en fait, c'était très beau. Et donc, le principe a été la reconversion d'espace. Exemple, sur les lieux, dans les 22 hectares de l'hôpital psychiatrique de Trieste, maintenant, on a deux lieux dédiés à la santé mentale et à la toxicomanie. Donc, on a gardé quelques pavillons. Il y avait une trentaine de pavillons. Quelques pavillons ont été gardés pour la santé mentale, pour les services pour les toxicomanies, mais on a ajouté des pavillons dédiés au district sanitaire. Donc, c'est la santé générale, le spécialiste, la santé générale pour les citoyens. On a vendu, l'administration a vendu... Non, tu peux revenir en arrière ? Voilà. On a vendu des pavillons à l'université qui a installé la faculté de géologie. Donc, on a des étudiants, des professeurs qui vivent, qui passent la journée dans l'ancienne enceinte de l'hôpital psychiatrique, un lycée, un centre de jour de la municipalité pour les personnes handicapées, donc un centre de jour avec Alévé, les sièges des coopératives, les restaurants, le poste Les Fragoles, vous voyez, où les professeurs, les étudiants et les travailleurs de la santé mentale vont en manger. Et enfin, il y a aussi l'administration générale de la santé, c'est-à-dire le directeur de la santé générale de la ville de Trieste a son siège, c'est là-dedans. Donc, vous voyez que, voilà. Ça, j'ai trouvé intéressant parce que ça, c'est une photo qui fait partie de ce merveilleux reportage qui a été, bon, après je vous montrerai, c'est un livre sur l'hôpital psychiatrique de Trieste qui a fêté ses 100 ans. Donc, c'est 1910, un pavillon. Le même pavillon en 70, j'étais chanceux de trouver ça. Et ça, c'est la photo que j'ai faite, ça fait une semaine. La rencontre du centre collaborateur OMS à Trieste qui s'est passée le 6 et le 7 novembre. Voilà, les mêmes lieux, avec des fonctions très différentes. La suivante. Bon, là sont des espaces, les réfectoires. Là, il y a le restaurant, le poste Les Fragoles. Le même espace du réfectoire en bas est devenu un lieu de séminaire. Et là, c'est la direction des services de santé mentale, qui était un ancien pavillon. Les suivants. Deux minutes encore, ça. Oui, je vais arriver. Voilà. Et là, ça, c'est cet espace est un pavillon, et c'est devenu le siège des coopératives sociales et des ateliers de théâtre, etc. Et ils font un festival de jardin une fois par an. Et là, ils montrent la ville qui a invité à faire les courses, les achats de plantes dans les lieux qui étaient une fois un pavillon. Voilà. Mais ce que j'ai dit, c'est aussi la même fonction. Donc la fonction santé mentale, il faut évidemment la respecter, mais dans différents espaces. Donc vous voyez, là, c'est les images du service d'urgence hospitalier à l'hôpital général. Ça, c'est les photos. Et là, sont les chambres d'une santé mentale. Bon, la suivante. Voilà. L'autre chose importante, c'est utiliser les espaces pour la santé mentale comme espaces qui ont multiples fonctions. Donc, espaces de rencontre. J'ai voulu montrer, en effet, la journée des portes ouvertes qu'on a fait en 2005. Donc, on a ouvert le centre de santé mentale aux citoyens du quartier. Et on a fait une journée de 9h au soir avec les associations, les écoles, la bande du quartier, etc., qui s'est présentée. Et donc, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où l'espace pour la santé mentale s'est traversé, c'est transparent, c'est passé par tout le monde. La suivante. Et voilà, ce sont encore des images, le théâtre, la bande de l'orchestre qui est venu jouer, des jongleurs qui sont venus. Donc, utiliser cet espace dédié à la santé mentale comme espace de rencontre. Mais aussi, la suivante, c'est un espace de travail, donc les lieux dédiés à l'espace de travail sont des lieux, bon, c'est normal, mais sont déplacés dans la ville, dans les quartiers. Bon, la vie quotidienne, il y a les mêmes fonctions qu'on a dans les structures de santé mentale, donc il y a le moment du repas, la salle à manger, la salle dans laquelle on passe la journée, on écoute la musique, le moment des réunions, la réunion des équipes, etc. Donc c'est tout à fait une possibilité d'utiliser, voilà. Espace de loisirs et de fêtes, voilà, sont des journées de fêtes qui montrent les passages, comment les espaces, vous voyez, sont peuvent être utilisées de plusieurs fonctions. Là, il y a un groupe de visiteurs, de personnes qui sont venues de l'Autriche. Hein, et nous les rencontrés sont arrivés dans un jour qu'il y avait une fête. Bon, on est restés tous ensemble. Et tu vois la suivante. Mais même des espaces de travail et de création. Donc, je dirais que la dispersion, la production des lieux vivibles qui sont pour tout le monde, pour les soignants et pour les soignants, c'est très important et qui permet aussi d'avoir ça c'est la sérigraphie des services de santé mentale, c'est la radio, ça c'est l'espace de créativité d'un artiste très bizarre mais très sympa. Ça c'est très historique parce que c'est le premier atelier de artistique qui a été mené par les cousins de Franco Basaglia, Vittorio Basaglia, quand il a construit le Cheval Bleu. Et là, c'est le travail fait par les coopératives pour mettre en condition de naviguer les bateaux, là, les voiliers, le Califo, hein, qui a été en effet. Voilà. Enfin, il y a aussi des espaces de recherche et d'échange. Ça, c'est des échanges avec des visiteurs. Là, c'est le centre collaborateur OMS. Bon, ici, il y a des Français qui sont venus. Hein. Ça, c'est une rencontre internationale avec des Allemands et des Anglais. Ici, il y a la signature du protocole de recherche avec Santé mentale population générale. Ce sont des familles d'usagères qui sont venus de la France, et là, il y a un séminaire. Donc, les espaces ont multiples fonctions. Hein. Tu peux avancer encore. Et je voulais terminer en disant, je suis allé un peu vite, mais en disant que les dépassements complets du paradigme, de la perception asilaire des espaces, je dirais qu'aujourd'hui, à 30 ans de la fermeture de l'hôpital psychiatrique, nous a permis de revaloriser le patrimoine architectural de l'asile. Hein. Ce qui a été, et je crois que M. Alos a pu le constater lui-même, c'est je ne dis pas détruit, mais on avait méprisé pour longtemps, après tous ces changements, après les changements de paradigme, a pu être revalorisé et réutilisé. Et donc maintenant, ces espaces-là sont vivants. Si vous allez dans l'hôpital psychiatrique, il n'y a plus de murs, il passe les bus dedans. Mais cette revalorisation est passée à travers un moment de crise, de changement, qui nous a permis de reprendre à niveau historique l'histoire de la santé mentale et en redonnant complètement une autre vision à l'architecture. Et voilà, et je m'arrête ici, j'ai respecté.
Merci beaucoup, docteur. Presque. Très bien, très bien.